Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier Culture Média de la semaine. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large et même très large. Tous les médias, toutes les formes de culture, il y aura le journal des médias, il y aura le journal de la culture. On va parler séries avec le retour de Platane sur Canal+, qui fait ma joie, et d'un art pour lequel on coupe beaucoup d'arbres, la littérature. Notre infomédia, c'est un nouveau média numérique qui bouleverse le petit monde de la presse auto, comme l'Autojournal ou Autoplus, et même des émissions comme Turbo ou Automoto. Il s'appelle POA, c'est-à-dire Petites Observations Automobiles, et sur YouTube, juste pour situer, POA est déjà l'une des 5 chaînes auto de référence. Le Téléthon, c'est ce week-end et je recevrai le réalisateur des grandes soirées, Tristan Carnet. C'est une référence, c'est lui qui est aux manettes derrière Masked Singer ou The Voice, mais également Quotidien, et il a également mis en image le meeting de François Hollande au Bourget ou le débat présidentiel Macron-Le Pen. Il nous dira en quoi consiste son travail. Enfin, Vincent Niclot, chanteur phénomène sans équivalent dans le paysage musical, plus d'un million de disques vendus alors qu'il n'a sorti que 5 albums, et là il sort un nouvel album justement, ça s'appelle Ténor. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour la soprano, Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bordel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, sur cette voix de basse, nous sommes avec Pierre Desereau de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
On démarre avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier?
On commence avec un carton qui ne se dément pas de semaine en semaine. Ce carton, il est pour TF1 qui proposait hier 2 nouveaux épisodes de la saison 2 de Balthazar, sa série policière avec Thomas Sisley.
Balthazar en un seul mot.
Balthazar
et pas
en
le
un seul
Balthazar.
Mot. Exactement. Et le public était massivement présent au rendez-vous encore une fois hier, puisque Balthazar a rassemblé 6 090 000 personnes, 29,5% du public. C'est un excellent score et c'est même une performance en hausse sur une semaine. Les nouvelles sont donc très bonnes pour TF1 et les nouvelles sont bonnes aussi pour France 2. La 2 qui proposait hier Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Soirée politique événement à gros enjeux sur la 2 au soir de la grève massive contre la future réforme des retraites. Dans cette émission, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, faisaient face à un panel de 8 Français en colère, ouais, ainsi que Philippe Martinez de la CGT. Alors j'en viens tout de suite au score que les acteurs de la sphère politico-médiatique attendent tous ce matin. Vous avez la parole à rassembler hier 2 200 000 Français, 11,2% du public.
Oh dis donc, c'est beaucoup, c'est bien,
oui,
ça monte.
C'est beaucoup, c'est un très bon score pour une émission politique. C'est la première fois que l'émission politique de la 2 repasse la barre des 2 millions de téléspectateurs. Depuis le mois de janvier dernier, on était alors en pleine crise des Gilets jaunes. Donc très bon score pour la 2. En troisième place, on retrouve M6, la 6 qui proposait une soirée ciné avec Rock'n'Roll, Comédie Française 2 et avec Guillaume Canet, mais aussi Marion Cotillard. C'était un film inédit et il a fédéré 1 900 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Du cinéma, il y en avait aussi sur France 3, mais ça n'a pas marché. La 3 qui rediffusait hier le film Le Seigneur des Anneaux,
ah oui, donc,
La Communauté
pourtant
de l'Anneau, ouais, premier opus de la trilogie déjà culte de Peter Jackson. 1 100 000 télévores à peine, 6% du public ont passé la soirée avec Frodon Sacquet, Gandalf, Aragorn et la Frugoloum.
Et puis alors Pierre, il y avait aussi une soirée politique sur C8 autour de Cyril Hanouna, une émission qui n'était pas du tout du goût de Yannick Le Tranchant, le patron de l'info de France Télévisions, que nous recevions hier et qui avait qualifié cette émission de plagiat.
Oui, alors il faut dire que l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna portait sur le même thème, la colère contre la réforme des retraites. Et c'était aussi un politique face à des Français, en l'occurrence Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport. Et cette émission a été un succès puisqu'elle a été suivie par 950 000 téléspectateurs, 4% du public. C'est un record pour l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna.
Et puis au lendemain de la grande grève, vous vouliez compléter ce bulletin d'audience avec les scores des journaux télévisés de 20h d'hier soir.
Oui, les journaux télévisés qui sont toujours très consommés quand il y a des grands événements d'actu. Ça a été le cas hier avec 6 150 000 personnes devant le 20h de Gilles Boulot, wow, sur TF1. Sur France 2, ils étaient très nombreux aussi, 5 400 000 avec Anne-Sophie Lapix. Sur M6, c'est à 19h45, c'était avec Xavier Demoulin, et là ils étaient 3 200 000. Il y avait du monde aussi un petit peu avant sur France 3 avec le 19-20 national de Carole Gessler. Là, il y avait 3 400 000 Français, ce qui représente 15,7% du public.
Et hier, France Télévisions était en service réduit et quasiment tous les sujets du, oui, 19-20 étaient dans le 20h de France 2. Merci Pierre, bon week-end.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Place maintenant au journal des médias avec Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors qu'y a-t-il dans l'actu ce matin ?
Ce matin, je vous parle du traditionnel week-end, du Téléthon, de la grève à Radio France, du biopic sur Grégory Lemarchal et on terminera par une séquence luxe et volupté.
Alors Cyril, vous commencez ce journal par le lancement de la 33e édition du Téléthon qui débute.
30 heures de mobilisation sur les chaînes du service public, 30 heures pour se montrer généreux aux manettes de ces deux jours de programme ininterrompu. Sophie Davant et Nagui accompagné du parrain de l'édition 2019, le comédien Jean-Paul Rouve. Louise Bernard a rencontré le producteur du Téléthon, Philippe Villamidjana. Il nous explique le dispositif pour cette année.
Alors, le Téléthon cette année va poser sa grande bulle à la Cité des sciences et des techniques, là-bas à la Villette, devant la Géode. Ensuite, on va être dans toute la France, comme chaque année, et plus particulièrement dans la ville de Jean-Paul Rouve, notre parrain, qui est Dunkerque, et les gens, les Dunkerquois nous ont dit ben nous, on va vous faire un carnaval pour le Téléthon, et on se mobilise à fond, et on vous réserve même des surprises.
Des surprises, c'est vrai que France Télé ne lésine pas sur les moyens pour mobiliser les Français. Et le groupe public est d'ailleurs devenu un partenaire indispensable de l'AFM Téléthon qui travaille à l'organisation de cette gigantesque opération de collecte de dons. On écoute à nouveau le producteur de l'émission.
Un programme de 30 heures à la télévision, non-stop, ça n'existe nulle part au monde, de façon aussi régulière. Donc le Téléthon fait partie des incontournables de la maison et fait partie de l'ADN de France Télévisions depuis 33 ans. C'est la solidarité, ce sont des valeurs extrêmement fortes. La solidarité, la bienveillance, la générosité, ce sont nos valeurs. Et le Téléthon incarne ces valeurs. Donc on est totalement là où il faut en faisant le Téléthon. On estime que c'est grâce à ces 30 heures qu'on arrive à collecter la plus grande collecte au monde.
Mais est-ce que dans ce contexte de mobilisation sociale, les Français se montreront généreux ? Les dons avaient baissé l'an dernier, 85 millions d'euros, c'était 4 millions de moins qu'en 2017. Mais selon Philippe Villamidjana, qu'il pleuve, qu'il neige ou que ça manifeste, le Téléthon doit avoir lieu.
Quel que soit le contexte, et on en a bien conscience, que ce soit l'enterrement de Johnny Hallyday, que ce soit les attentats qu'il y a eu à Paris au mois de novembre il y a quelques années, que ce soit les gilets jaunes l'année dernière, le Téléthon aura lieu. On ne peut pas rater le rendez-vous du Téléthon. Le Téléthon, ça permet à l'AFM, une association, de collecter le budget d'une année pour la recherche, pour les familles, pour les enfants. Donc le Téléthon ne peut pas être annulé, en quelle que soit la situation. Après, c'est vrai que nous, on espère cette année, malgré le contexte, il y aura des grèves annoncées, etc., mais on espère avoir le Téléthon le plus protégé, entre guillemets, pour permettre à ceux qui veulent donner, de donner, et ceux qui veulent regarder, de regarder.
Si vous voulez faire un don pour aider à la recherche, vous faites le 36 37 ou vous vous rendez sur téléthon.fr.
Et nous recevrons dans quelques instants le réalisateur des deux grandes soirées du Téléthon, Tristan Carnet. Cyril, un biopic sur Grégory Lemarchal se prépare et on connaît désormais le nom du comédien qui va camper le rôle du chanteur.
Il s'appelle Michael Lumière, il a 23 ans, l'âge qu'avait l'ex-candidat de la Star Academy lorsqu'il a disparu en 2007. Michael Lumière n'est pas encore très connu du grand public, on a pu le voir dans des séries comme Plus belle la vie sur France 3 ou Scam diffusé sur la plateforme France TV Slash et récemment au cinéma dans La vérité si je mens, les débuts. La réalisation de ce biopic a été confiée à Laurent Tuel qui avait réalisé le film Jean-Philippe avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini.
La grève Radio France risque de s'éterniser.
On peut lire dans Les Échos ce matin que la grève pourrait durer jusqu'à Noël. Cela fait déjà deux semaines qu'une partie des salariés du groupe public se mobilise contre le plan d'économie de leur direction. Ils étaient 25% au début du conflit. Ils ne sont parfois que 5% des salariés à faire grève. Mais les antennes de Radio France restent perturbées car il suffit parfois d'un seul gréviste pour empêcher la diffusion de tout un programme ou d'une simple chronique.
Attention, on voit les bling bling de ce journal des médias. Vous m'avez prévenu, Cyril, vous allez nous parler du nouveau numéro du magazine Forbes.
Forbes, c'est l'actualité business pour les entrepreneurs et les décisionnaires. Et pour ce 9e numéro, le magazine met en lumière l'empire Rihanna, la Rihanna la chanteuse. Un numéro spécial luxe pour ce trimestriel, histoire de célébrer en fanfare l'arrivée des fêtes. Dominique Busseau, le fondateur de Forbes France, nous dit ce qu'on va trouver dans cette édition dorée à leur fin.
Alors c'est un numéro 100% luxe et surtout plutôt le business du luxe. Ce sont les hommes et les femmes qui font le luxe en France, principalement, avec l'exception de notre cover, où on peut y découvrir Rihanna, qui est à la fois une chanteuse, mais qui a lancé une marque avec le groupe LVMH, d'où la raison de la mettre en une de Forbes France. On a 4 numéros par an, on est donc un trimestriel, et on essaie d'avoir des temps forts chaque période de l'année, et début décembre, avant les fêtes, on trouvait que c'était pas mal de parler de luxe et surtout du business du luxe.
En feuilletant le trimestriel, vous pourrez croiser du Bernard Arnault, de la Rihanna, de la Lily Rose Depp, de la Alban Clairet ou encore de la Maison Cartier. Mais contrairement aux apparences, Forbes ne s'adresse pas qu'à un public fortuné où on ne parlerait que de luxe et de volupté. On écoute ce que son fondateur veut mettre en avant.
On a repris les codes du magazine américain, donc l'ADN du magazine Forbes, en s'inspirant de ce qui est fait aux États-Unis, mais en travaillant dans l'écosystème franco-français. Donc on parle des hommes et des femmes, on interviewe les hommes et les femmes qui font le business en France. Forbes n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, un magazine pour les riches. C'est un magazine sur les succès d'entreprise, sur l'entrepreneuriat, et on met en lumière ceux qui réussissent. Mais pour réussir, on peut échouer 9, 10, 15, 20 fois pour réussir une fois un jour et éventuellement gagner un petit peu d'argent. Ça marche plutôt bien puisque le magazine vient de fêter ses 2 ans et au bout de la 2e année, on a un groupe média rentable.
Ce numéro de Forbes est aujourd'hui en kiosque. 184 pages, dont 47 de publicité. 100 000 exemplaires sont mis en vente.
Merci beaucoup Cyril, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi.
Merci.
À suivre l'infomédia du jour avec au programme un site qui séduit les amateurs de presse automobile, le site POA pour Petites Observations Automobiles, et on en parle dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
3 lettres ce matin dans notre info média du jour, POA, comme Petites Observations Automobiles. Nous allons parler d'un petit nouveau, un média numérique qui commence à bouleverser le monde de la presse auto et ses institutions comme l'Autojournal, l'Automobile Magazine, Auto Plus, Automoto, et j'en oublie, sans parler des émissions Automoto sur TF1 ou Turbo sur M6. C'est né sous la forme d'un blog en 2000. POA, aujourd'hui, est un site et une chaîne YouTube avec un slogan, la vie, les gens et leurs histoires de bagnoles. POA fédère une communauté de 131 000 abonnés sur YouTube, communauté qui a plus que doublé en un an, ce qui l'en fait l'une des 5 chaînes auto de référence. À titre de comparaison, la chaîne YouTube d'Auto Plus, le titre le plus connu en France, totalise 132 000 abonnés, donc 1000 de plus, malgré des moyens bien supérieurs. POA, c'est également un esprit pour parler des voitures, aussi bien au passé avec des amateurs, des collectionneurs, au présent avec des essais de voitures actuelles et au futur, pour évoquer les nouvelles solutions de mobilité, comme on dit dans les cabinets de marketing. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur POA et pourquoi lancer une chaîne bagnole en plein climat d'autophobie? Pour en parler, je reçois le fondateur de POA, Renaud Roubaudy. Bonjour. Ah, vous êtes là. Vous êtes là, Renaud?
Oui, je suis au téléphone.
Exactement. Ben, voilà. Je précise que vous êtes en ligne avec nous et non pas dans ce studio à cause de la grève à l'école, l'école qui n'a pas pu accueillir votre fille, et donc vous gardez votre fille, et donc vous n'êtes pas dans ce studio.
C'est son maître. Il y a certains profs, c'est son maître. Pas de bol, c'est son maître à elle. Voilà.
Exactement. Dans ce studio, l'un de vos compères et co-associés, Cédric Fréour. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à POA, au journaliste automobile, et au très sérieux quotidien économique Les Échos. Je vais commencer par une question à vous deux, inspirée par l'actu immédiate. Avec les grèves des transports en commun, on ne parle plus que de covoiturage et de blablacar. Est-ce que c'est une belle revanche pour la voiture ou est-ce que c'est le baroud d'honneur? Cédric, puisque vous êtes à côté de moi.
C'est peut-être les deux. On est à un tournant, en fait. L'industrie automobile est à un tournant. Vous savez, elle va devenir électrique, elle va devenir autonome. Et c'est une réinvention complète. Et c'est pour ça que ça nous passionne aujourd'hui, l'automobile. C'est un peu comme le passage de la télé en noir et blanc à la télé en couleur.
Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens qui voulaient interdire la télé. Or là, il y a plein de gens qui veulent interdire la voiture. Et toutes les solutions qu'on voit dans la ville, c'est la voiture, puisque les transports en commun montrent parfois leur inefficacité. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus, Renaud Roubaudy.
Ben, j'allais dire, c'est vous le meilleur ambassadeur depuis 5 minutes de POA. Vous savez, moi, il y a une phrase que j'adore dire dans chaque vidéo, je dis, la bagnole n'est pas morte. Ouais. C'est-à-dire que c'est une sorte de pied de nez, on est tout à fait conscient que tout change et qu'on peut pas être dans le tout bagnole. Je pense que c'est souvent ce qui l'a tué, en fait. C'est-à-dire, il y avait des chapelles tellement intégristes là-dessus. Mais si on en parle avec un peu de recul et une vision comme ça un peu décalée, ben on se rend compte qu'elle est toujours là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et justement, c'est un peu le sujet de POA, c'est à chaque fois de mettre en perspective ce que ça représente, tant sur le plaisir que sur le niveau sociétal.
Voilà. Alors justement,
je vais dire ça, mais il y a de ça, quoi.
Justement, je vais vous demander ça. Quelle idée vous avez eue de lancer ce média POA? C'est comme s'il y a 100 ans, on lançait un journal sur le charbon.
D'abord, je l'ai lancé il y a 10 ans, et puis Cédric m'a rejoint très vite. Ouais. Mais moi, j'ai coutume de dire que POA, c'est du vol. Et en fait, moi, je suis venu par hasard à l'automobile et je trouvais que la façon dont on en parlait ne me plaisait pas parce qu'elle était trop technique. Et je me disais, tous les à côté, justement, tout ce qu'on raconte pas, les coulisses, tout ce qui est la vie autour, tout ce que font les gens, voilà, on s'est dit, on va essayer d'aller... C'est pour ça que le titre, d'ailleurs, on l'a gardé, c'est des petites observations. Et en fait, souvent, des petites choses en disent plus long que des grandes sur la voiture et encore une fois, sur le monde sur lequel on vit, voilà. Donc,
alors... Vous avez lancé le média Renault Roue Body. Cédric, vous l'avez rejoint. Vous êtes désormais associé. Comment ça marche? C'est quoi vos audiences?
Alors, on a, vous le disiez, 130 000 abonnés YouTube, 132 000 précisément aujourd'hui. Ouais. Et une bonne vidéo sur POA, elle va faire 100 000 vues très vite.
Ouais.
Et la plus importante aujourd'hui, elle est presque au million, elle est à 900 000 vues. Alors, c'est intéressant parce que c'est sur l'hydrogène. Nous, ce qu'on traite, c'est l'automobile passé, présent, futur. C'est souvent des passionnés. Mmh. Et puis, tout à coup, le sujet de l'énergie, l'hydrogène, qui pour nous est presque, j'allais dire, sérieux dans notre ton, est devenue la vidéo la plus vue. C'est aussi dire beaucoup de choses sur ce que recherche la société et ce qu'attendent, je pense, le plus grand nombre.
Alors, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, sur POA, ce que j'aimerais qu'on entende un petit peu des sons, à défaut de voir des images, il y a aussi, ça s'appelle POA Petits Observateurs, il y a des gens lambda, comme vous et moi, en tout cas, comme moi, pas comme vous, qui aiment leur voiture et qui savent en parler. On va écouter un extrait. C'est Johan, il a 20 ans, il a réalisé son rêve, s'offrir une Chevrolet Caprice de 74, monstre américain qui mesure près de 6 mètres de long.
C'est formidable, ouais.
Redis-moi, quelle année, elle a quel moteur, c'était quoi dans la gamme, etc.
Alors, c'est un modèle 74, donc immatriculé en France fin 73.
Ouais.
Elle est équipée du moteur 400 CI, donc le 6 litres 6.
Ouais.
Donc un small block,
ouais.
Pas si petit. Boîte automatique 3 vitesses TH350.
T'as conscience quand même que tu roules dans un dinosaure, quoi.
Oui. Bah, c'est une sorte de patrimoine qu'il faut sauvegarder.
Céline Dacosta, vous en pensez quoi de la boîte CH350?
Bah, il roule avec un dinosaure, hein,
ouais.
Clairement.
Et vous avez un small block?
J'en ai deux, même.
À la maison. C'est quoi les succès de POA?
On vient de l'entendre, tous les mercredis, les petits observateurs, les fans de POA se sont auto-baptisés comme ça, viennent nous présenter leur voiture. Et alors, on est totalement ouvert. C'est-à-dire qu'il y a ce jeune homme qui est venu nous présenter effectivement une voiture antidéluvienne américaine, mais qui fait encore rêver la planète entière. C'est presque cinématographique.
Ouais. Mais quand vous recevez le type qui adore sa Citroën AX, l'une des voitures les plus moches de la Terre.
Mais c'est génial.
Vous le recevez pour rigoler?
Non, vraiment, parce que tout nous intéresse et
parce
tout est intéressant.
Mais Philippe, j'ai cru qu'elle avait été redécorée dans son coucaille.
Philippe, il adore son AX.
Ouais.
Voilà, et c'est ça qui est génial. Pourquoi il l'adore et pourquoi il l'aime? Et en fait, on va découvrir avec lui souvent. Et l'AX, on a tous une histoire avec une AX, en fait. Moi, mes beaux-parents ont une AX, sur une petite île en Bretagne qui leur sert beaucoup.
Ouais.
Et en fait, toutes les voitures ont quelque chose à raconter.
D'accord.
Et nous, c'est ce qui nous plaît, en fait.
On a tous quelque chose de Tennessee, mais surtout, on a tous une histoire avec une AX. Je vais méditer là-dessus pendant la pause.
Ouais, c'était aussi ma première voiture, Philippe, figurez-vous.
C'est pas vrai,
c'est
dingue.
Petite observation automobile, POA, le site pour les amateurs d'automobile. On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Une info média du jour consacrée à POA, Petites Observations Automobiles, un site qui fédère une communauté d'amateurs de voitures. Vous nous en parlez, Philippe, avec vos invités. Renaud Roubaud, le fondateur du site, et son cofondateur, journaliste également, Cédric Fréour.
Cédric, je réalise qu'on n'a pas donné l'adresse du site, c'est poa.com.fr.
.com.
POA.com. Alors, les
émissions. Petites observations automobiles.com.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les émissions?
Alors, le lundi, les affaires sont les affaires. Ça porte bien son nom, c'est l'émission économique. Le mercredi, on le disait il y a quelques instants, on reçoit des petits observateurs qui nous présentent de leur AX aux voitures du futur. Le vendredi, il y a les essais. Donc, ce sont toutes les nouveautés. Et puis, on a deux belles émissions. On a le Café Garage. Le Café Garage, on est plusieurs à se réunir. Il y a notre associé aussi qui s'appelle Floriane. Il y a une voix féminine. Et on refait l'actualité tous les mois, l'actualité automobile, surtout internationale. Et puis, il y a les road trips. Les road trips, on part pour 6, 7, parfois 10 épisodes avec une voiture qui fait l'actualité. Et on va au bout du monde.
Vraiment?
Vraiment.
Vous êtes déjà allé au bout du monde?
Alors,
avec une Lada?
On revient du Japon.
D'accord.
Voilà.
Bon, vous avez pris le bateau quand même. Question à Renaud Roubaudy. Question à Renaud. Oui, mais la voiture, elle n'a pas pris l'avion.
Non, elle n'a pas pris l'avion.
D'accord.
Il a fallu probablement qu'elle prenne effectivement le bateau.
Question à Renaud Roubaudy. Quel est votre public? Souvent, on associe les amateurs de voitures à des beaufs et j'imagine que ça vous énerve.
Bah justement, c'est une très bonne question. Je crois que la force de POA, c'est, on est un peu comme Tintin, c'est-à-dire qu'on touche un public très très large. De 7 à 77 ans, on a des gens de tous les âges, on le voit dans les gens qui nous proposent leur voiture. Mmh. Et je crois que Cédric et moi, c'est notre plus grande fierté. On a des gens de tous les milieux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui viennent nous voir avec une vieille Bentley assez chère, mais justement aussi des gens de 20 ans qui viennent avec une AX qui vont payer 3000 balles. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, les gens ne décodent pas forcément de l'extérieur, parce que justement, vous l'avez dit, la bagnole, surtout en France, a une image un peu beauf, quoi, un peu con-con. Et à l'inverse, on le montre tous les jours. On a vraiment tout le monde, et ça, c'est super.
Vous êtes anti-diesel ?
Non, pas forcément. On parle de l'actualité parce que voilà, c'est dans le viseur, mais on n'essaye pas d'être partisan. On essaye toujours de donner la parole à un public très large, des pour et des contre. Nous, on adore le débat. On adore quand les gens s'emploignent, mais nous, on essaye de vraiment d'être le plus ouvert possible. On n'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment, ça fait partie de la fonction de POA, quoi,
d'accord,
créer le débat.
Et je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes était né de l'annonce de l'augmentation des taxes sur les carburants. Alors justement, autre augmentation qui est annoncée, le super malus sur les véhicules très puissants et polluants, qui passerait d'un montant de 12 500 à 20 000 euros. Ça toucherait 10 000 à 15 000 voitures par an, notamment les marques comme Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren ou Maserati, je les lis, sans imaginer qu'un jour je pourrais jamais en avoir une. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cédric Fribourg?
On l'annonce comme quelque chose d'extrêmement bouleversant, sans doute, sauf que ce marché, en tout cas en France, des voitures hyper luxueuses, il est ultra minoritaire. Et les gens qui sont capables, effectivement, de débourser tout à coup des sommes parfois folles pour s'offrir ce genre de voiture...
Ont les 20 000 euros.
Ont les 20 000 euros.
Donc quoi, c'est de l'affichage.
Ça va être des rentrées fiscales, surtout, parce que quelqu'un qui, effectivement, adore l'automobile et est prêt à dépenser des centaines de milliers d'euros dedans, tant mieux qu'effectivement se soit prélevé. Ce qui est un peu plus gênant en fait sur le bonus-malus, c'est quand il va impacter en fait le marché, le gros du marché hexagonal. Et aujourd'hui, effectivement, le bonus-malus, il tend à contraindre de plus en plus le CO2 et à contraindre de plus en plus je cherche mes mots, je suis désolé. En fait, le bonus-malus et le déclenchement du bonus-malus, il se réduit, il est compté sur le CO2.
Ouais.
Et aujourd'hui, ça risque d'impacter le gros du marché français qui est entre 15 000 et 20 000 euros. Et là c'est davantage problématique et ça va contraindre effectivement beaucoup plus de gens.
Et puis, il y a aussi une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est l'emploi. L'agence Bloomberg a chiffré à 80 000 le nombre d'emplois qui vont disparaître dans l'industrie automobile dans les prochaines années, principalement en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Renaud Roubaudy, est-ce que aussi cette notion économique de la voiture intéresse votre site, intéresse POA ?
Oui, bien sûr, c'est un des sujets récurrents, c'est une énorme activité. Mais vous voyez, sur le malus, on vient du Japon. Et ils ont dans les villes des petites voitures qu'on appelle les kikars, qui sont très marrantes, qui ne doivent pas dépasser 3,40 m et 600 cm3, enfin une toute petite. Et je me disais, mais pourquoi en France on veut toujours taxer alors qu'on pourrait faire l'inverse et de dire, parce que ces voitures ne sont pas importées chez nous, de dire ceux qui ont ces petites bagnoles qui ne consomment pas, qui sont très écolos, qui en plus sont très rigolotes, on va les détaxer entre guillemets. Quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'on prend toujours le problème par le négatif. Alors qu'il y a des pays où ils le prennent par le positif. Voilà. Je voulais juste ajouter ça parce que c'est une façon d'appréhender les problèmes. Et effectivement, c'est en quoi la voiture reste centrale, c'est qu'elle est toujours un peu, je dirais pas le bouc émissaire, mais elle reste un peu au centre de tout. C'est toujours la carotte et le bâton. Je te taxe, puis après je te donne une aide. Mais effectivement, au niveau économique, ça reste majeur, quoi. Donc il y a une sorte d'ambiguïté en permanence de la part de nos gouvernants qui est curieuse. Mais ça serait tellement facile d'aider ceux qui essayent de faire des choses qui fonctionnent plutôt que de regarder ce qui ne fonctionne pas. Enfin, voilà.
Juste un mot, Cédric Fribourg, pour terminer. Vous avez organisé le premier rassemblement POA en mai dernier à la demande des fans. Combien de personnes sont venues ?
1500.
1500 personnes ou 1500 voitures ?
1500 personnes et il y avait 500 voitures. Et pour vous donner un point de repère, ça faisait partie... quasiment des 10 plus grands rassemblements en France. On a été complètement
abasourdis.
En fait, on était un peu naïfs. On s'est dit, tiens, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On a envoyé les invitations. Et au bout de 24 heures, on a dû les clôturer parce que ça débordait. On s'est dit, ça va finir. Voilà. Et ça a été effectivement merveilleux. C'était une sorte de réunion de famille. Je suis trop long.
Non, c'est pas que vous êtes trop long, c'est qu'après, nous, on doit passer des annonces et parfois pour des voitures. C'est juste pour dire que trop de monde qui arrive, c'est un peu comme quand Céline Dacosta faisait une boum avec son AX. Merci beaucoup, Cédric Fréour. Merci, Renaud Roubaudy, d'avoir été avec nous. Vous êtes les cofondateurs de POA. Oui, je me souviens très, très bien de cette musique. C'était pour des voitures à vivre.
Formidable.
Robert Palmer.
Oui, c'est vrai.
Mary and Lucy.
La 33e édition du Téléthon démarre aujourd'hui. Pour en parler dans Culture Média, on accueille Tristan Carnet, le réalisateur de cette édition 2019. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille le réalisateur Tristan Carnet.
Bonjour Tristan Carnet.
Bonjour.
Très heureux d'accueillir un réalisateur pour la première fois ici dans Culture Média. Réalisateur de télévision donc, vous êtes une sorte de référence. C'est vous qui êtes aux manettes derrière Masked Singer ou The Voice sur TF1, mais également Quotidien sur TMC, mais également lors du débat présidentiel Macron-Le Pen, et j'en oublie. Votre actualité, c'est le Téléthon, c'est ce week-end sur France 2 et France 3. 30 heures de direct. Je ne vais pas vous poser la question qu'on posait traditionnellement à Gérard Holtz. Qu'est-ce que vous prenez pour tenir 30 heures? Parce que vous n'êtes pas 30 heures aux manettes. Vous allez faire les grandes soirées vous-même.
Oui, moi je fais l'Access et le Prime Time du vendredi et de samedi. Donc je fais de grosses soirées, on va dire.
Avec Sophie Davant, Nagui, Jean-Paul Rouve comme parrain. Qu'est-ce qu'on va voir à l'antenne? Et d'abord, comment vous avez travaillé, comment vous avez appréhendé l'événement, le Téléthon, qui n'est pas une émission de variété traditionnelle?
Non, c'est une émission particulière parce qu'on traite d'un sujet difficile. Chaque année, on essaye, avec Philippe Villamidjana, le producteur, et Laurence Thienot-Hermand de la FM, d'essayer de faire un gros événement autour de cette soirée. Là, ce soir, on a installé une bulle magnifique face à la Géode. Et on va filmer, évidemment, beaucoup de témoignages, de la variété, des chanteurs, un moment de fête pour ces enfants qui vivent une soirée exceptionnelle. Donc, c'est une soirée assez particulière.
Et des reportages, je le précise, pour faire des dons, c'est le 36-37. Il y a une opération que je trouve absolument formidable. Des malades et des chercheurs sont montés au sommet de la montagne Albaron dans les Alpes. Vous savez pourquoi là-bas?
Oui, ils sont montés là-bas parce que la hauteur de la montagne est de 3637 mètres et que ça fait donc 36-37.
Je trouve ça absolument génial comme idée. Alors, c'est aussi une manière de dire que la recherche générée par le Téléthon porte enfin ses fruits. Ce matin, dans le Parisien, il y a une pleine page sur Julien qui a 42 ans, qui était quasiment aveugle à la suite d'une maladie génétique et qui a recouvré la vue. Et ce matin, dans le 5-6 de Julien Pierre sur Europe, on entendait une femme, une jeune femme qui a passé toute sa jeunesse dans un fauteuil roulant et qui marche à nouveau. Donc, pour dire que le Téléthon, les dons, ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qui compte pour vous, l'essentiel, en tant que réalisateur? C'est ce qu'on voit à l'antenne, le spectacle, ou le compteur des dons qui défile?
C'est clairement le compteur des dons, c'est aussi le spectacle, mais c'est clairement le compteur des dons. Moi, c'est une émission que je réalise depuis beaucoup d'années. Ça fait 12 ans, je crois, que je fais le plateau principal. Et avant, j'étais réalisateur dans ce qu'on appelle les centres de promesses. Et c'est vrai que c'est une émission qui a cette particularité que moi, j'ai vu des enfants qui, il y a quelques années, n'auraient pas pu être soignés et qui, aujourd'hui, marchent pour certains. Et donc, cette avancée, elle est palpable tous les jours, quoi. On se rend compte, quand on filme le sourire de ces enfants, que tout d'un coup, l'espoir qu'il y a autour de cette recherche, des dons qui sont faits pendant toutes ces 24 heures, mais au-delà, surtout, il faut rappeler aux auditeurs qu'on peut donner après soirée du Téléthon, au 36-37. Mais c'est vrai que cette avancée, elle est palpable, quoi. Je vous dis, moi, j'ai connu des enfants qui, malheureusement, ne sont plus là et que j'ai connus dans les premières années de mes réalisations du Téléthon, mais j'en connais d'autres qui ont réussi à marcher et à évoluer.
Le prime time de ce soir, ce sera sur France 3. Il sera présenté par Sophie Davant et Cyril Ferraud. Il sera dédié aux héros de séries de fiction, c'est ça?
Oui, absolument.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir?
J'ai pas le conducteur en tête parce que hier et avant-hier on a répété, donc vous savez, toutes les émissions sont mélangées quand on répète, c'est les artistes qui arrivent à des heures différentes, mais je sais que Philippe Villamidjana a réglé la soirée pour qu'elle soit assez rythmée, assez riche, et je vous dis, c'est cette alternance entre des reportages, des témoignages en plateau et des variétés sur le plateau aussi.
C'est important l'audience pour vous?
C'est toujours important. Ceux qui disent que l'audience n'est pas importante mentent en télé. C'est toujours important. Parfois, on se camoufle derrière le fait que, ce qui est important, c'est le contenu. C'est surtout, évidemment, le contenu. Mais en l'occurrence, sur le Téléthon, ce qui est important, c'est le compteur.
Je vais vous dire, Tristan Carnet, pourquoi je vous pose la question. Parce que ce soir, vous serez sur France 3, mais en face, sur TF1, il y aura Masked Singer, réalisé par un certain Tristan Carnet.
Oui.
Donc vous serez votre propre concurrent.
Absolument. Alors ça m'arrive assez rarement. Je travaille beaucoup pour TF1, je travaille beaucoup pour France Télévisions, pour Canal, pour M6. Nous les réalisateurs, on est indépendants, on travaille pour toutes les chaînes. Ouais. Et là, le hasard du calendrier fait que la programmation de Masked Singer tombe le même soir que le Téléthon. Bon, c'est un hasard de calendrier.
Il y aura aussi la soirée de samedi. Le parrain sera Jean-Paul Rouve. Et à côté du plateau, il y aura la baraque à frites. Ça va être quoi la baraque à frites?
La baraque à frites, ça va être un événement.
À frites, pas à frites.
À frites, à frites, à frites.
Parce que le fric, c'est le 30. Oui, vous avez dit fric, mais vous avez raison, c'est un lapsus révélateur. Ouais. Le fric, c'est le 36-37.
Le fric, c'est le 36-37.
Vraiment, allez-y.
Les sous, les dons, ouais. Et vraiment.
Et la caillasse.
Voilà, et la caillasse.
Mais la baraque à frites, ça sera quoi?
La baraque à frites, ça va être un événement autour duquel on va vendre beaucoup, le plus de frites possible, toujours pour essayer de faire le maximum de dons autour du Téléthon.
Et alors, l'audience se rajeunit sans cesse. Il y aura également le Téléthon Gaming avec les gamers, les fans de jeux vidéo. Ça va se passer de quelle manière, l'alliance des deux?
Eh bien, je ne sais pas. Je dois vous dire la vérité, c'est que c'est une partie dont je ne vais pas m'occuper. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer.
Est-ce que vous craignez la grève, puisque c'est, en ce moment, c'est grande grève sur le service public, ou des incidents entre ce soir et demain?
On craint toujours, parce qu'on a, toujours eu... Enfin, ça fait 2-3 ans qu'on a vécu...
Vous n'avez pas eu de bol.
On n'a pas eu de bol.
L'an passé, il y avait les gilets jaunes. L'année d'avant, il y avait la mort de Johnny.
Ouais.
Et là, la grève générale.
Et là,
enfin,
la grève
qui se voudrait générale.
Bah ouais, mais on tient debout et à chaque fois, on se dit que rien n'empêchera le Téléthon de se faire et les appels aux dons. On craint la grève, non. On a répété mercredi certains trucs en se disant que peut-être la journée d'hier allait nous handicaper un petit peu. Ça n'a pas tellement été le cas. Les artistes sont vraiment contents de venir dans cette émission parce qu'ils savent aussi que c'est quelque chose d'important et différent.
Et vos techniciens sont motivés ou est-ce qu'il peut y avoir une grève de la technique?
Les techniciens sont hyper motivés. On peut toujours avoir une grève, mais les techniciens sont hyper motivés et très heureux de faire cette émission qui est vraiment quelque chose de particulier. Et vous savez, le direct en télévision, il en reste, mais ce direct-là est vraiment tellement particulier parce que tellement énorme que les techniciens sont très contents de le vivre.
Et nous, on est très heureux de vous recevoir, Tristan Carnet. Vous restez avec nous.
33e édition du Téléthon qui démarre aujourd'hui. On continue à en parler avec son réalisateur, Tristan Carnet, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Zandel.
36-37, c'est le numéro pour faire un don pour le Téléthon qui démarre aujourd'hui. 30 heures de direct pour cette 33e édition réalisée par notre invité Tristan Carnet.
On va parler de votre travail justement. Vous réalisez Masked Singer, The Voice sur TF1, Quotidien sur TMC, également des émissions politiques. C'est quoi, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le rôle du réalisateur, à part choisir quelle caméra est à l'image en appuyant sur un bouton? En quoi votre travail influence la perception d'une émission?
Pour moi, c'est effectivement... Le réalisateur, il travaille dans une régie, c'est un lieu qui est annexe au plateau, qui est plein d'écrans, et il voit le plateau à travers les caméras qu'il a disposées sur le plateau. Pour moi, réaliser une émission, c'est montrer au téléspectateur ce qu'il voudrait voir si le téléspectateur était sur le plateau. C'est-à-dire, c'est essayer de poser la caméra là où le téléspectateur ou le spectateur sur le plateau poserait naturellement ses yeux.
Alors le coup d'éclat, par exemple, j'y pense à ça, c'était quand Ségolène Royal annonce, alors que ça n'était pas prévu du tout, sa candidature à l'élection présidentielle, elle est avec Jamel.
Absolument.
Et là, c'est vous qui réalisez ça et vous sentez qu'il va se passer un truc.
Oui, je réalisais le Grand Journal à l'époque et ce Grand Journal-là était particulier parce qu'effectivement, Ségolène Royal s'est déclarée candidate sur cette émission. Jamel était invité, Diams avait chanté une variété, enfin un live. Il y avait donc une espèce d'ambiance assez marrante sur le plateau parce que c'était que des personnalités assez étonnantes. Et effectivement, à la fin du morceau avec Diams, où Jamel avait fait lever Ségolène Royal pour qu'elle danse, il avait demandé si elle se déclarait ou pas. Et un peu forcée, elle avait confirmé qu'elle se déclarait. C'est des petits moments qu'on sent un peu venir. On ne peut pas se dire qu'ils vont avoir lieu vraiment, mais on peut sentir qu'il va y avoir un truc qui se passait. Et donc moi, là, par exemple, je passais plus souvent le plan A2 avec Ségolène et Jamel qu'une alternance de gros plans. Parce que je trouvais que l'image des deux était forte. Et puis je me disais, s'il se passe un truc, il se passe un truc. J'aurais pu avoir la même info si j'avais fait des gros plans. Mais il se trouve qu'avec le plan A2, j'ai la main de Jamel qui se pose sur la main de Ségolène. Et il y a un petit truc en plus.
Masked Singer que vous réalisez, c'est une émission différente des autres. Vous êtes bluffé vous-même en régie. J'ai une question pour vous. Les audiences sont un peu décevantes. Elles sont bonnes, TF1 en tête, mais elles déclinent. Alors que dans tous les autres pays, elles montent. Est-ce que vous avez une explication?
Non. Franchement... Je sais pas, il y avait peut-être une attente, mais je sais pas. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que plus on avance, plus les émissions sont marrantes et drôles à regarder. Et je pousse les spectateurs, évidemment, à regarder les deux prochaines, celle de ce soir et celle de vendredi prochain. Mais je ne sais pas pourquoi ça décline comme ça.
Alors, je veux dire une chose, on n'a plus beaucoup de temps. Juste dire que c'est vous qui avez réintroduit les plans de coupe dans le débat télévisé, alors que c'était interdit depuis l'époque Mitterrand.
Oui, depuis le premier débat, voilà. 1974.
Et vous avez réussi à obtenir ceci. On ne savait pas encore ce qui va se passer pour le prochain débat, on ne sait pas, ça va être vous. Vos projets, le Grand Oral, concours d'éloquence présenté par Ruquier, mais produit par vous-même, ça va revenir?
Oui, ça revient, on tourne en janvier, toujours présenté par Laurent Ruquier. On a reformaté un petit peu le programme avec Michel Field et ses équipes, mais on a toujours les mêmes espérances de découvrir des Français qui viennent de la société au sens large, pas des gens qui sont des spécialistes de la parole et qui vont venir prendre la parole. C'est un exercice très 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 difficile, très particulier, mais qui avait beaucoup séduit l'année dernière. Et c'est pourquoi la France Télévisions a décidé de reconduire l'émission.
Alors il y aura également une émission avec Mika, c'est ça ?
Une émission avec Mika qu'on va tourner aussi.
Mais pas sur TF1.
Sur France Télévisions.
Voilà, alors qu'il est plutôt estampillé TF1 à cause de The Voice.
Bah, il était, ouais. C'est des artistes, vous savez, ils ne sont pas tellement estampillés chaînes. Hein, ils prennent les chaînes comme des parcours, des moments de leur vie. The Voice était une aventure, elle est sur TF1, mais là on vit une nouvelle expérience avec Mika sur France 2.
Et puis les Olympia Awards aussi, on va recevoir Antoine Decaune lundi à ce sujet. C'est quoi votre degré de concentration pendant le direct ? Vous êtes très concentré ?
Très concentré.
Ouais, tu parles. Ouais. Deniso a révélé dans Le Monde, c'était en 2017, il parle de vous, il dit il est capable de répondre à mes SMS en plein direct sur TF1.
Envoyez-moi un ce soir et vous verrez que je vous répondrai.
Bah maintenant vous le savez, vous n'allez pas me répondre. Mais non, vous n'allez pas me répondre. Vous répondez à Deniso et pas à moi. Merci beaucoup Tristan Carnet. Les soirées du Téléthon, c'est aujourd'hui, ce soir et tout le week-end sur la 2 et sur la 3. Et je rappelle, le numéro pour les dons, c'est le 3637. Merci d'avoir été avec nous, Tristan.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et le Téléthon, on continue à en parler sur Europe 1. Vous savez, Philippe, avec le directeur scientifique du Téléthon qui sera l'invité de Mélanie Gomez pour votre émission Sans Rendez-vous. Elle parlera de la recherche au secours des maladies rares à partir de 15h sur Europe 1. Place maintenant à nos radoteurs avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus, Gilles.Gaston Dreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup,
Rien. Gilles.
Ah, bonjour Stéphane.
Nous sommes vendredi.
J'avais peur de ne pas vous retrouver après
Pourquoi ?
Ce qui s'est passé hier. J'ai voulu défendre Trump. On a perdu notre âme, là. Enfin, c'était très compliqué. J'ai pas dormi de la nuit, de lundi à mardi.
Pourquoi vous vouliez le défendre absolument ?
Mais je sais pas.
Vous voyez Nancy Pelosi ?
Oui.
Vous voyez ?
Oui, bien sûr, je vois Nancy Pelosi.
Parce que la manière dont vous dites oui, c'est, j'ai l'impression que c'est non. Comme vous dites une fois oui pour dire non et trois fois non pour dire oui, on ne sait pas toujours ce que vous dites. Je la vois, elle est debout. Enfin, je la vois, tout le monde la voit.
Mais étiez-vous même debout, assis ? Je ne comprends pas votre position géographique.
On ne parle pas de géographie. Je lisais un magazine et je voyais Nancy Pelosi debout en train de tancer le président.
N'oubliez pas qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Donc c'est bien de préciser quand même les choses quand vous dites j'ai vu Nancy Pelosi.
Elle était debout en train de tancer le président ?
Oui.
Pourquoi je vous disais ça ?
Je ne sais pas. Mais
moi non plus, je ne sais plus.
Je vais finir votre phrase. C'est Trump qui a fait passer cette photo pensant que ça allait la desservir, mais en fait, ce type est tellement débile qu'en fait, on voit l'inverse.
Mais pourquoi on parlait d'elle ?
Je ne sais pas. Ça fait partie des circonvolutions de vos cerveaux que j'ai du mal à suivre quelquefois. Je sais pas, mais.
Vous avez dit Sarkozy ?
On n'a pas été Nancy.
Si, vous avez dit Nancy Sarkozy. Il y a eu Nancy Reagan aussi.
Nancy Chaplin.
Nancy Natra.
Nancy Sissi.
Pardon ?
Nancy Sissi est impératrice.
Oui ? Vous allez répuiser. Je sais maintenant qui vous ressemblez. Pas Paul Prébois, non. Vous ressemblez à. Michel Delpech.
Michel Delpech.
Vous avez fait une moue comme ça, et c'était mais Michel Delpech.
Je voulais pas qu'on fasse un nouvel enregistrement dans trois mois, le temps que vous partiez en cure.
Chantez un peu quelque chose de Michel Delpech. C'est très bien.
Napoléon.
Napoléon.
Ah non, c'est comment il s'appelle Serge Lama.
C'est pas parce que c'est vendredi qu'il faut dire n'importe quoi. Pour terminer, est-ce qu'il y a des artistes américains qui vous touchent particulièrement ?
Il y a un petit jeune qui m'a bien tapé dans l'œil.
Quel est son prénom ?
Comment il s'appelle déjà ?
Je sais pas.
Si.
Mais donc,
vous voyez qui je veux dire ?
Non, pas du tout.
Type formidable.
Sûrement.
Un franco-américain.
Ben dites-moi.
Enfin, un américain, mais qui.
Qui aime bien le fromage.
Ça me reviendra la semaine prochaine.
Nous avions une semaine chargée avec Trump, mais on s'est rendu compte que Trump n'était pas si inspirant que ça.
Non, bizarrement, c'est pas un bon client.
Non, c'est pas un bon client.
Bon week-end.
Vous aussi.
C'était l'Air d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez dès lundi à 9h55 et en podcast sur Europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec le chanteur Vincent Niclot pour la sortie de son nouvel album Ténor. Il y reprend des grands standards de l'opéra, mais aussi des chansons originales rebâties sur des grands airs classiques comme le Lac des Cygnes ou un prélude de Chopin, avec la participation d'artistes prestigieux et pas qu'un peu comme Placido Domingo ou Camille et Julie Berthollet ou Angélique Kidjo. Et puis, dans les indispensables, on va vous montrer que Star Wars rime également avec philosophie. Wars, I, ça va pas du tout. Notre Jedi Nicolas Caro vous dira tout. Ça ne rime pas non plus. Et puis l'info desserrée avec Margot Barallon et la nouvelle saison de Platane sur Canal+, création de l'humoriste Éric Judor.